Vous écoutez RTL.
Et puis, notre invité d'honneur. Alors, notre invité d'honneur, nous lui devions cette invitation et elle ne devait pas automatiquement l'accepter. C'est pour ça que nous y sommes sensibles. Mais on l'a entendu récemment déclarer qu'elle aimait l'amour et whisky. Alors, elle a semblé que, avant même de nous rejoindre, elle était déjà un peu des nôtres. Voici Christine Boutin. Voilà, bonjour Madame Boutin.
Bonjour.
Alors, on doit vous appeler Madame le ou Madame la ministre, parce qu'il paraît qu'on est ministre pour l'éternité.
Oui, c'est la seule joie qu'on ait, du reste. C'est de rester ministre jusqu'à la fin de sa vie, parce que le temps de la responsabilité n'est pas très drôle.
Pas député, vous n'êtes plus député.
Non, j'ai décidé de ne pas me représenter, parce que à mon âge, j'ai pensé qu'il était bien de passer la main. J'ai 69 ans.
De passer... 69 ans. Mais attendez,
voilà. Bravo.
Donc c'est normal, c'est normal.
Quel bon chiffre, hein.
Voilà, c'est très bon chiffre. Oui, c'est un très bon chiffre.
Ça va pas commencer.
Oui, ça y est. Elle est partie.
Ça suffit.
J'imagine que, avant de passer la main, comme vous le dites, j'imagine que vous avez fait un petit sondage sur vos possibilités d'être élu, non ?
Je crois sincèrement que j'aurais été réélu.
C'est vrai ?
Oui, mais je crois que, écoutez, ça faisait plus de 20 ans que j'étais parlementaire, il faut savoir passer la main, absolument, renouveler. Et
quand
voilà.
On aime autant l'amour que vous, 20 ans à la chambre, c'est rien, hein ? Vous êtes ici avec, en compagnie de mes camarades qui parfois ont plaisanté, mais jamais méchamment, hein, parce que c'est pas le genre de la maison.
Ben non.
Moi j'aime bien le rire aussi.
C'est pour ça qu'on vous a invité, parce que bon, il fallait quand même que vous prouviez que vous n'étiez plus la femme coincée qu'on a longtemps prétendu que vous étiez.
J'apprécie votre style. Parce que je ne suis pas une femme coincée. On m'a mis cette image-là sur la tête, mais je ne suis pas une femme coincée. Bien au contraire, j'aime la vie. Voilà.
Ouais.
On va rigoler.
Peut-être qu'on a à vous dire que vous étiez une femme que les hommes aimeraient coincer.
Ça c'est un compliment.
C'est charmant.
Faites attention à la sortie dans le couloir.
Vous avez vu, il s'est manié le madrigal.
Alors Clarisse va donner notre menu à Madame Boutin, qui va trouver là 4 plats honnêtes. À charge pour elle d'en choisir un. Alors vous avez d'abord le check-up. Bon, vous avez l'air en bonne santé. Vous avez la garde à vue, qui est assez à la mode chez les politiques en ce moment. Vous avez le match de tennis. Et vous avez la fête foraine. Vous choisissez.
Je vais choisir la fête foraine.
La fête foraine. Elle a beaucoup de succès, la fête foraine. Alors, nous sommes maintenant dans l'aléatoire, mais c'est vous qui décidez de tout. Et y compris, pour commencer, de la grosse tête qui va tenir, entre guillemets, la baraque de la fête foraine.
Buffalo Bill.
Oh, ta gueule, toi.
Véronique est très bien dans le rôle.
C'est le meilleur.
Justement, j'avais envie que ce soit...
Madame Boutin avait envie, tu vas voir.
Monsieur Péroni, si Madame Boutin vous choisit, il faut y aller.
Tu peux pas refuser.
Allez,
j'ai choisi. Mais il a la gueule de l'emploi, qu'est-ce que vous voulez?
Oh, vous êtes bien fait.
Bon, déjà, je vais vous dire, c'est un petit service qu'on vous rend, parce que comme il s'éloigne, vous ne souffrirez pas si on allait.
Je vais encore avoir mal aux miches. C'est affreux, ce truc-là.
Oui, parce que la chaise est étroite.
C'est terrible.
Alors, avant que la roue tourne, il faut naturellement rameuter le chaland.
Allons-y, ménagère. Sur eux, ça ne nous regarde pas.
Alors ce sont des questions, voilà. Bon, pas très indiscrètes, mais un petit peu quand même. Questions qu'on aurait hésité à vous poser si on ne savait pas combien vous êtes affranchis désormais. Et qui va vous poser ces questions?
Alors,
elle avait préparé Ali Toué. Hein.
Non. Je vais choisir Macha.
Ah. Eh ben voilà.
Alors, est-ce que vous êtes satisfaite d'avoir non plus un seul pape, mais deux?
J'ai été surprise, comme beaucoup de chrétiens, naturellement, de cette démarche. Mais je suis très heureuse qu'il y en ait deux. Oui.
Deux papes pour le prix d'un. Hein.
Oui.
Des papes. Oui, mais des panzani.
Il est bien le tenancier. Hein.
Pour l'instant, je ne regrette pas.
Ah bah non.
Il a forcé sur le vin de messe.
N'assistez-vous aux messes que lorsqu'elles sont dites en latin?
Ah non, non. J'assiste très régulièrement à la messe. Je suis une catholique pratiquante. Mais non, non, pas spécialement en latin. Vous savez, le latin, c'est très loin pour moi. Sauf quand on va à l'étranger, je trouve que c'est très pratique, messe en latin. Parce qu'au moins, là, il y a une véritable communion. Alors que si vous allez, je sais pas, en Ukraine, en Russie, vous allez en Espagne... Vous ne partagez pas autant, tandis que le latin a au moins ce mérite-là.
Ah, c'est une langue universelle. Ah, oui. Oui.
Enfin, puis on ne comprend rien, c'est bien.
Il y a encore des messes.
Non, parce que comme on a l'habitude toutes les semaines, et même dans la semaine, de la dire en français, on fait très vite quand même.
Madame Boutin, il y a encore des messes en latin?
Oui, il y en a beaucoup.
Il y en a même en javanais.
Bien sûr.
Moi, j'ai assisté à une messe en latin en Chine, j'ai rien compris.
Ah oui.
Okay, c'est vrai que quand l'accent, se rajoute à ce moment-là, on suit avec ça.
Rassurez-nous, on peut assister à une messe en latin sans que le desservant soit intégriste, forcément.
Bien sûr. Mais à Rome, au Vatican, les messes sont très souvent en latin. Toujours en latin.
Mais là, c'est la maison
mère.
Parce que c'est
universel. Sûr. L'Église est universelle. Elle s'adresse à toutes les langues, à tous les peuples.
Au Quai d'Orsay, Fabius Vobiscum.
Croyez vraiment?
Je suis pas sûr.
Moi, je suis orthodoxe, c'est
il y a du latin.
Ah oui, c'est le fameux latin de Garenne.
Mais comment vous faites la terrine alors?
À quel moment priez-vous le Seigneur? Vous a-t-il déjà répondu? Et où fait comprendre qu'il vous avait entendu? Ça, c'est une question très pertinente.
La prière, il y a naturellement la prière formelle à laquelle j'essaie d'être fidèle. J'essaie de faire en sorte...
À quelle heure?
Le matin et le soir.
Bon, donc on ne vous dérange pas l'après-midi, d'accord. Voilà.
Mais j'essaie de faire en sorte que ma vie soit une prière permanente.
Ah oui.
Ah, c'est beau.
Ah bah alors, dites donc.
Ça force le respect, ça.
Ça a l'air de vous ennuyer un peu.
Non, pas du tout.
C'est important, la vérité.
Et pourtant, vous êtes venu sans vous faire prier.
Absolument, puisque la prière est toujours en moi.
Donc. Oui, en fait, pourquoi vous avez accepté notre invitation?
Mais parce que c'est un honneur de venir chez vous et que je n'avais jamais été invitée, que je trouvais que c'était pas très gentil de votre part. Vous m'avez proposé, j'ai accepté.
Elle s'est parlé aux hommes et aux dames aussi. Alors, nous avons encore une question, quand même.
De quel œil verriez-vous le mariage des prêtres entre eux, naturellement? Enfin, entre eux.
Entre eux.
Certainement d'un bon œil. Vous connaissez la blague? Vous connaissez la blague des deux prêtres qui disent « Tu crois, toi, au mariage des prêtres ?»« Oh, non, je crois pas. Non, c'est pas pour tout de suite. Nos enfants, peut-être, le verront. »
Mais aussi des prêtres et des religieuses. C'est une question très tendancieuse.
Non, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Profondément, je ne le souhaite pas. Parce que, naturellement, il y a une dimension spirituelle qui est parfois difficile à comprendre pour celui qui n'a pas cette démarche et que je ne juge pas.
Il y a des popes et des pasteurs qui l'assument très bien, cette dimension spirituelle.
Mais nous pensons que le célibat est un don particulier, radical, de l'amour vis-à-vis de Dieu. Moi, personnellement, je n'y suis pas favorable. Et je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas que ce soit encore le moment venu.
Écoutez-moi,
si ça viendra, moi, je ne le verrai pas.
Madame Boutin, avant d'entrer dans notre grand studio, au moment où va démarrer l'examen de passage, vous avez fait une petite prière
Mon Dieu, aidez-moi. Je vais tout vous dire.
Oui.
Eh bien non, figurez-vous.
Non?
Non, figurez-vous, non. Parce que pour moi, la prière n'est pas une superstition.
Alors répétez après moi, je crois en Philippe Bouvard, le père.
Comment et où se déroule votre retraite annuelle?
Elle se déroule dans différents endroits, mais essentiellement dans des foyers de charité. Les foyers de charité ont été créés par une femme qui a vécu pendant 20 ans, 25 ans, uniquement de l'Eucharistie, et qui s'appelait Marthe Robin. Et je me suis convertie dans un foyer de charité. C'était très saint.
C'était une stigmatisée, non?
Elle tous les vendredis, elle vivait la passion du Christ, effectivement.
Et elle vivait dans les bois, Marthe Robin des bois.
Non, elle n'était pas dans les bois, mais elle vivait dans une toute petite chambre.
La sœur de Muriel.
C'est assez étonnant, voilà. Mais je pense, vous savez, au-delà de cela, je crois qu'il est très important d'avoir des moments de silence dans sa vie, quel que soit son choix personnel, politique, spirituel. Je crois que dans un monde qui est en telle ébullition, de prendre des moments de silence est quelque chose qui fait du bien, même physiquement.
Vous dites ça à la radio, on n'arrête pas de parler. Enfin, bon.
Là, vous êtes mal tombé.
C'est quoi le quotidien d'une retraite, Madame Boutin? Alors, vous faites quoi toute la journée?
Eh bien, on prie d'abord. On prie. On a des.
On épluche les légumes, non?
Oui, on peut. Oui, on participe. On participe effectivement à la vie du foyer. Et puis, on a, si on le souhaite, des conférences. Sur un thème particulier qui permet d'approfondir un petit peu la réflexion spirituelle.
Par exemple,
justement pour vous faire réagir.
Oui.
L'Immaculée Conception.
Ah, ça, c'est pas facile à comprendre.
Ça, non. Non, parce que ça vient de l'intérieur.
Oui. Ça, c'est ce que ma grande fille a essayé de m'expliquer, mais.
On dit pas Immaculée, on dit j'ai très mal aux fesses.
Non.
C'est ce que m'a dit.
Madame Boutin, je le mettrai en pénitence quand vous serez parti.
Absolument au piquet.
Pour une fois que c'est pour moi, Philippe.
Ah oui. Tu verras le très haut ce qu'il te fera.
Eh bien, justement,
en tous les cas, vous savez, ce qui est très important, c'est que, au-delà des sourires, et ça peut nous faire réfléchir, cette femme qui s'appelait Marie, elle a dit oui. Or, on sait très bien, dans un couple, dans une vie de société, si l'autre dit non, on ne peut pas avancer. Et ce oui de cette femme, cette Vierge Marie, à laquelle je crois, est fondamental pour pouvoir arriver à avancer et progresser. Donc, on peut en sourire, on peut dire tout ce que l'on veut, mais moi, je vous dis que ce oui, regardez dans nos vies,
attendez,
on ne peut pas avancer si l'autre ne dit pas oui.
Elle a dit oui à qui?
À Dieu.
Ah oui, mais. Et Joseph dans tout ça.
Il a dit oui aussi.
Mais Joseph, il a dit oui aussi. Il a fabriqué ses cornes lui-même en bois.
Non.
Elle lui a dit dis donc, Joe, parce qu'elle l'appelait Joe.
Oui.
Tu peux aller au café, j'ai pas besoin de toi. Et il a dit oui.
Il a dit oui parce qu'il a cru.
C'est terrible.
Et il a eu raison de croire.
Mais il a été le dernier prévenu, comme tout le monde.
Mais ils ont eu des enfants après.
Non.
Ça, c'est une théorie.
C'est une théorie.
Il a pas eu un petit frère, une petite sœur.
Non, il n'y a pas eu d'autre.
Ah, bah, il était fils unique.
Alors, si vous croyez au paradis, comment vous le représentez-vous?
C'est très. Je ne sais pas.
Avec François Hollande en Dieu.
François Hollande, pardonner.
Ça, c'est difficile à imaginer.
Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est, merci de me proposer
mais
ça.
Mais oui.
C'est ça,
mais
le
je
paradis.
Je ne dis pas ça au hasard, madame, vous
mais
savez.
Oui. Non, mais je suis très sensible que vous m'ayez proposé cela. Je trouve qu'effectivement, le paradis, ça sera le lieu où tout le monde se sera pardonné.
Oui.
Ça, évidemment.
Oh là là.
C'est beau.
Non, mais attendez, physiquement, comment vous le représentez?
J'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais rien.
Moi,
je voyais Monica Bellucci, je voyais hier l'autre jour à la télévision, elle est magnifique. Et puis, soi-même, quand on se regarde à côté, on dit, oh là là, qu'est-ce que je ferais? Alors, est-ce qu'on sera tous en Monica Bellucci ou en Christine Boutin? Choisissez.
Moi, je préférerais Christine Boutin.
Oh, c'est gentil. Ça, c'est peut-être un peu...
Évidemment. Non, mais j'en suis plus près, quand
c'est
même.
C'est mensonge.
Ah, ça, mon pauvre gars.
Alors, si vous croyez à l'enfer, considérez-vous que l'incinération est une bonne préparation?
Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Chacun est libre. Mais l'incinération, c'est quelque chose qui, personnellement, ne me plairait pas du tout.
C'est-à-dire, on se demande dans quel état on va réapparaître au jugement dernier.
Mais ça n'a pas d'importance.
Non, ça n'a aucune importance.
C'est l'âme.
Attendez,
il paraît
qu'on sera 33 000 dans la vallée de Josaphat. Autant être en...
Mais ça sera magnifique, on ne peut même pas l'imaginer. Oui. On ne peut même pas l'imaginer.
Mais moi, je ne peux même pas me faire incinérer avec tout ce que je picole dans tout le cimetière, ça sentir les rognons malaires. Qu'est-ce que vous voulez?
Un Péroni dans la bonne chose, chose à faim.
Bah, c'était dans les films de Dolphinès, ma bonne chose à faim. Oh, ah, ma oui. bonne chose à faim, oui, c'était vrai. Dans le gendarme.
Une question sérieuse. Pensez-vous qu'il faut, au nom de la laïcité, bannir tous les symboles religieux ?
Non, je ne crois pas du tout. Moi, je suis très attachée à la République. La République française, qui dans son article 1, dans la Constitution, dit que la laïcité, la France est un État laïque qui respecte toutes les croyances et toutes les religions. Alors naturellement, il ne faut pas de provocation, mais moi je suis pour l'acceptation de toutes les religions et c'est notre richesse.
Y compris du voile.
Mais oui, moi j'avais voté contre la loi sur le voile, parce que je pensais qu'on allait vers une stigmatisation qui ne ferait que radicaliser. Je me suis peut-être trompée du reste, mais à l'époque, j'ai voté contre, oui.
Alors, je voulais vous dire, quand vous êtes arrivée, puis je n'ai pas osé, mais maintenant que je sens qu'on est plus en confiance, Madame Boutin, vous êtes ici chez vous. Et puis, je suis tombée sur une page de la documentation qu'on avait réunie avant de vous recevoir. Et avant de vous dire vous êtes chez vous, j'ai regardé cette page sur laquelle il y avait marqué « Quand je suis chez moi, je suis souvent nu ». Alors je me suis dit, j'aurais fait là une faute de goût. Hein. C'est vrai que vous êtes souvent nu quand vous êtes chez vous.
Écoutez, je ne sais pas, je trouve que c'est très agréable.
Je suis pas contre.
Vous voyez. Voilà.
La pépère qui aurait un petit dégain.
Moi, j'aime bien la nudité, oui.
Oui. Donc, je ne pouvais pas dire vous êtes chez vous sans que ça ait l'air d'une invitation inconvenante. Donc, refusez.
Mais c'est très beau, les
ménagères. On tourne.
Allons-y, les ménagères. On va voir sur quoi qu'on va tomber. C'est ceci, c'est cela, c'est... Oh, la vie professionnelle.
Ah, alors, qui va vous poser ces questions professionnelles? Il faut bien qu'on parle un peu de politique. Hein.
Alors, je vais demander à Jacques Maillot.
Eh bien, on y va. Alors, Christine Boutin, combien votre parti chrétien-démocrate regroupe-t-il de militants?
On est entre 12 000 et 15 000. On espère avoir les 15 000 d'ici le mois de juin.
C'est vague.
Par une reproduction interne, non.
Non. Non, mais il se trouve que, surtout dans la crise dans laquelle nous sommes en ce moment, rappeler qu'il y a un certain nombre de valeurs fondamentales est plutôt attractif. Et c'est vrai que je suis assez étonnée de voir spontanément arriver des nouveaux adhérents que je ne connais pas obligatoirement.
Depuis toutes les histoires, là.
Oui, depuis la fin de l'année dernière. Et oui.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas merci, mon Dieu, on dit merci, Cahuzac.
C'est pas Cahuzac, là.
Écoutez, si, quand même, hein, c'est la goutte d'eau. Hein.
Oui. Mais c'est terrible, vous savez ce qui est. Je suis comme tous les Français, catastrophé. Et ce que j'attends, moi, c'est du président de la République une parole. Parce que là, franchement, le silence est un peu lourd.
Parce que vous trouvez que quand il parle, on est rassuré.
Ouais.
Non, mais il est dans sa responsabilité, vous savez. C'est lui qui est en responsabilité, c'est lui qui a le pouvoir politique. Aujourd'hui, c'est une affaire purement politique. La France est en échec, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Soit un remaniement, soit une dissolution, soit il démissionne. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Voilà, on ne peut pas rester comme ça dans ce silence. Et l'idée d'une loi nouvelle, vous savez, nous avons des tas de lois sur ces sujets-là. Aucune loi n'arrivera à effacer le mensonge. Le problème est de savoir quelle est la valeur morale des hommes, des femmes politiques, des Françaises et des Français, de savoir si le mensonge est une valeur. Je suis très étonnée qu'on soit aujourd'hui, dans un pays tellement libéral et libertaire, qu'on soit choqué par le mensonge. Pourquoi est-on choqué par le mensonge alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite nulle part? Moi, je ne comprends pas. Mais je suis naturellement contre le mensonge. Ah, je vous laisse silencieux,
là. Oui, non, mais on est sans voix comme Hollande.
Moi, Cahuzac, si j'étais démocrate chrétien, je ferais tronc commun avec lui.
Pourquoi?
Ah, bravo.
Je partagerais les... Enfin, bref. Pourquoi vous êtes-vous opposé au Pax alors qu'il n'allait pas jusqu'au mariage et à l'adoption? C'est pas un regret, ça, pour vous?
Non, c'est pas du tout un regret. Je n'ai naturellement rien, bien au contraire, vis-à-vis des personnes homosexuelles. Et en 1999, j'avais déposé tous les amendements qui permettaient de répondre aux inégalités de droit.
Vous aviez même longtemps un collaborateur auprès de vous qui était visiblement...
Oui, qui était un homosexuel.
Voilà.
Mais moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que j'étais contre le Pax? Parce que je savais, par expérience, par tout le travail que j'ai pu mener, que le Pax mènerait immédiatement au mariage homosexuel.
Oh bah, ça n'a pas été immédiat.
Ça a mis 15 ans. Mais ouais. Ça a mis 15 ans, 13 ans, mais on y est aujourd'hui. Or, le mariage en tant que tel, ben, on voit bien que ça pose des problèmes importants, puisque si on veut véritablement l'égalité de droit, on sera obligé d'accepter la procréation médicalement assistée et les mères porteuses, c'est-à-dire l'exploitation des femmes pauvres qui loueront leur ventre pour pouvoir subsister. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. La France, pays des droits de l'homme, ne peut pas accepter cela.
Mais
ça,
bon,
moi,
je on passe à la question ça. Suivante.
Alors, question presque complémentaire. Est-ce que vous pensez que votre proposition d'autoriser le mariage des homosexuels avec des personnes d'un autre sexe suffirait à leur bonheur?
Non, mais parce que. Ça, c'est pas mal, mais non, ça. Mais ça, c'est une affaire juridique. Ça peut faire sourire et ça fait sourire. Mais la réalité, on nous parle, pour justifier le mariage homosexuel, l'égalité de droit. Mais le droit, il est attaché en France à une personne et non pas à un groupe ou à un couple. Et aujourd'hui, tout homme et toute femme en France a effectivement le droit de se marier. Le droit de se marier n'est pas interdit. Voilà, c'est la seule chose, c'est qu'il est demandé, il est proposé par une personne d'un autre sexe. Mais le droit au mariage en tant que tel existe bien dans le droit français, est ouvert à toutes les femmes et tous les hommes français.
Il faudra le dire à François Hollande, qui ne s'est toujours pas marié, je vous le rappelle.
Je crois qu'il n'aime pas le mariage.
Alors, quelles conséquences démographiques prévoyez-vous suite au mariage pour tous? Est-ce que vous pensez que ça va favoriser la reproduction?
Écoutez, je ne le crois pas. Ce que je pense, c'est que ça va tarir toutes les sources d'adoption, en particulier d'adoption d'enfants étrangers. Puisque la plupart des pays étrangers qui donnent des enfants à l'adoption le refusent pour les pays qui acceptent le mariage homosexuel. Si bien que lorsque l'on dit que cette histoire de mariage gay ne concerne que les homosexuels, c'est faux, ça concerne l'ensemble de la société, et c'est tout à fait normal. Le mariage est une institution qui touche l'ensemble de nos concitoyens.
Et ne dit-on pas, l'essayer, c'est l'adopter.
Ça, quand il se réveille, ça vaut le coup. Ah oui, ça, le... Cuvée.
Bon, taisez-vous. Je bois ces paroles.
C'est pas le patron de la baraque, c'est le patron de la barrique.
Une question très importante, Christine Boutin. Pensez-vous qu'on va poser plus tard, un jour, une plaque avenue de la Grande Armée, là où l'autre jour vous avez été victime d'un malaise?
Non, je crois pas. Honnêtement, je ne pense pas. Et ça ne le mérite pas. Mais cela dit... Ça pose quand même les questions de voir des gaz lacrymogènes qui sont envoyés comme ça un peu à tout le monde, aux enfants, aux familles, et aussi un ancien ministre. Enfin, je dois dire...
Les enfants, il n'y a pas de gaz...
C'est la famille.
Il n'y a pas de gaz sélectif qui épargnerait les enfants et les anciens ministres.
Je peux vous dire que la personne qui m'a envoyé le gaz, m'a bien visé. Oui. Parce que les autres qui étaient avec moi n'ont rien eu, et eux, moi je l'ai eu en plein...
Vous avez l'impression qu'ils vous avaient reconnu?
Je pense, oui. Je ne pense pas que ce soit un péché d'orgueil. Je crois que j'ai une notoriété qui est suffisamment importante maintenant pour que les forces de l'ordre me connaissent.
C'était quoi?
Alors là, ça va loin quand même.
Vous vous rendez compte? J'étais obligé d'aller me confesser, c'est ça?
Oui. Un CRS homosexuel? Non, quand même pas.
Vous êtes responsable de votre phrase. Moi, je ne la soutiens absolument pas.
Okay. Est-ce qu'on vous a secouru rapidement, Christine Boutin?
Eh ben, je crois que oui, mais je suis tombée dans les pommes, réellement. Je suis vraiment tombée dans les pommes et je pense pas que ça a été très long. Je sais pas ce qu'il y a dans ces gaz. Il y a peut-être quelque chose qui en dort.
Du cassoulet.
C'est de la mogette.
J'avais pas l'impression que c'était
ça relance le commerce régional.
Oui.
Je vais vous donner un conseil. Nous, quand je faisais les manifs, il faut mettre un foulard. Et sous le foulard, deux petites rondelles de citron sous les yeux. Oui. Tiens, comme ça, ça empêche la réaction aux lacrymogènes.
Vous voyez dans quel état ça l'a mis, regardez.
C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude. Hein.
Avec un foulard et deux rondelles de citron, on vous reconnaîtra pas.
Tu mets du citron.
Ah oui. C'est les bons trucs de péronisme.
Ça marche pour les cathos, ça marche plutôt pour les athées.
Christine Boutin, est-ce que vous avez déposé plainte et contre qui?
Non, je n'ai pas déposé plainte parce que j'ai estimé que... D'abord, j'étais dans un lieu qui n'était pas autorisé.
Ah, c'est pas beau ça.
Non, c'est pas bien. Hein.
Mais quoi, avenue de la Grande Armée, c'était autorisé?
Non, mais c'était pas avenue de la Grande Armée, c'était en haut des Champs-Élysées.
Vous aviez passé la frontière,
vous aviez passé la barrière.
Rebelle,
donc, je suis une vraie rebelle.
Ah oui.
Donc j'ai estimé que non, c'était pas nécessaire. Par contre, je pense que les parents qui ont eu des enfants qui ont reçu le gaz lacrymogène devraient déposer plainte.
Ouais. Puis le pardon, c'est chrétien quand même.
Bah oui. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah
oui. Et alors Jean-Marc Ayrault, qui est très croyant lui aussi, puisque j'ai vu qu'il était allé à l'intronisation du pape.
Il était obligé. Hein.
Il était obligé. Et oui. Pourquoi a-t-il refusé de vous recevoir?
Il faut lui demander, je ne sais pas, je n'en sais rien. Le président de la République aussi. Ni l'un ni l'autre n'ont voulu me recevoir, alors que je voulais, dès le mois de juillet, août, leur dire, mais en responsable politique pour l'intérêt supérieur de notre pays, que ce texte allait poser des problèmes et qu'il fallait le soumettre à référendum.
Ils ne voulaient pas l'entendre.
Quand je l'ai proposé au mois de juillet, imaginez-vous que la réponse n'était pas du tout dans mon camp par rapport au mariage pour tous. En France, pour avoir la paix sociale sur un texte aussi clivant, il faut faire appel au suffrage universel. C'est le suffrage universel qui amène la paix dans notre pays. Quand on a été adoubé par le suffrage universel, on a l'autorité. Donc ce texte, s'il était soumis à référendum, eh bien, que ce soit dans un sens ou dans un autre, serait accepté par le peuple de France dans sa globalité. Et le président de la République et le Premier ministre, n'ayant pas voulu entendre ça dès le mois d'août, on en arrive aujourd'hui à une société
pourquoi
qui est
clivée. Pourquoi? Parce que Ayrault, au mois d'août, il est dans son camping-car.
Je serais bien allé
voir. Il fait la tournée des baraques à
Fritz
sur la côte.
Exactement. Et alors, il est à
Brégançon. Mais j'aurais pu aller les voir.
Il a un pneu à plat, en plus. On en revient à votre passé ministériel, Christine Boutin. Est-ce que vous avez eu un ministère parce que vous aviez rallié Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'était un remerciement?
Ah non, en 2007, quand Nicolas Sarkozy s'est présenté, je n'avais pas l'intention de me présenter à l'élection présidentielle à ce moment-là. Non, je pense que Nicolas Sarkozy m'a choisi comme il en a choisi d'autres. Vous savez, je suis quand même une vieille politique. J'ai de l'expérience, j'ai une grande gueule. Je représente un certain courant de pensée dans la France, en France, au-delà même des 15 000 militants que j'espère avoir au mois de juin. Ce courant de pensée existe véritablement, donc dans la composition du gouvernement, et c'est normal.
Attendez.
Et puis de plus, je suis une femme, et les femmes, en a besoin.
Les femmes,
Alors, le président Sarkozy vous donne donc le ministère du logement et de la ville, et quelques mois plus tard, il vous retire la ville. Pourquoi?
J'étais avec Fadela Amara, il m'avait mis Fadela Amara comme responsable secrétaire d'État à la ville.
Vous n'êtes pas entendu du tout.
Et oui, ça n'a pas très bien marché, mais alors que j'espérais bien que ça marche, parce que symboliquement, c'était très fort, toutes les deux. Mais en fait, je ne sais pas. Nous avons sans doute une responsabilité partagée, c'est la chrétienne qui le dit.
Ah ouais. Vous n'avez pas réussi ni à vous paxer, ni à... Est-ce que vous avez fait avancer des dossiers importants quand vous étiez ministre, justement?
Bien sûr, j'ai fait passer une loi globale sur le logement et qui, du reste, est reprise par Madame Duflot, qui a l'air de découvrir le fil à couper le beurre. Mais enfin, bon, voilà.
Et pourtant, elle n'a pas inventé le bidon de 2 litres.
Non, non. Mais elle a trop mangé de beurre.
Qu'est-ce que c'est, cette loi, madame?
Vous savez, c'est une loi très complète. Alors, si je dois vous la décrire...
Ça ne fait rien.
Dites-nous simplement. Dites-nous.
C'était pour intervenir.
Madame Boutin, dites-nous simplement qui vous logiez et qui n'était pas logé précédemment.
Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est... En particulier si on regarde l'aspect des logements sociaux, et ça ne m'a pas valu que des compliments, dans la loi, j'ai obligé les personnes qui étaient dans les HLM et qui avaient des revenus qui dépassaient les critères d'attribution de ces logements, soit paient un surloyer équivalent au prix du privé, ou qu'ils quittent l'appartement. Et je peux vous dire, parce qu'il y a des gens qui sont rentrés il y a 30 ans dans les logements HLM, ont vu leur profession, leurs revenus
augmenter. Là, vous étiez la ministre du délogement.
Qui prenaient la place de ceux qui n'arrivent pas à se loger parce que leurs salaires ne sont pas, leurs revenus ne sont pas suffisants. Mais je peux vous dire que ça m'a valu beaucoup de critiques et d'impopularité aussi parmi ceux qui étaient des nantis et qui sont toujours, du reste, un peu dans ces
logements. Ils n'ont pas bougé.
Un petit tour de roue,
allons-y, c'est la roue. Et la roue qui roule, la roue qui pète, c'est la roupette et on va tomber sur un vie privée.
Alors, vie privée, vous avez le choix entre Philippe Chevalier et Bernard Mabille.
Alors, prenons Philippe Chevalier.
Ça va pas être finaux, ça, vous savez.
Mais non.
Il a une formation.
Alors, pas le bon choix. Madame, vous a-t-on déjà demandé s'il vous avait fallu une dispense pour épouser un cousin germain?
Non, pas sur le plan civil, parce que la loi française n'interdit pas ce mariage.
C'est la loi
religieuse, oui, effectivement.
Ah bon. C'est
à l'époque.
Un Allemand.
Vous avez épousé votre cousin Germain.
Absolument, j'ai épousé mon cousin Germain.
Germain, mais
c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour assez incroyable, puisque en fait, drôle, à 3 ans, nous étions partis tous les deux, laissant nos familles et tout le monde nous a cherchés.
À 3 ans.
Oui, 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 oui. Donc c'est une très vieille histoire d'amour et que j'assume totalement.
La nuit de noces à 3 ans.
Non, c'est pas de la nuit de noces à 3 ans. On a attendu, nous avons attendu.
Et vous vous êtes jamais perdu de vue.
Jamais.
C'est magnifique, c'est formidable,
ça. Et mon mari est l'homme qu'il me fallait.
Ah, bah oui. Comment il a pris le jour où, chez Thierry Ardisson, vous avez déclaré que vous aimiez le sexe et le whisky? Quand vous êtes rentré, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a rien dit parce qu'il le sait très bien.
J'ai pas entendu. Il vous a dit ça s'arrose, non?
Non. Il m'a vu dans ma vérité.
Bah oui, oui, oui. Ouais, bah, ça, on ne le savait pas. Enfin, lui, il le savait. Mais nous, nous n'étions pas au courant.
Et non.
Et surtout que... avec l'image qu'on m'a fait porter pendant des années et des années, la femme coincée. Moi, je ne suis pas une femme coincée, j'aime la vie.
Oh non.
Et que fait votre mari lorsqu'il n'est pas Monsieur Boutin?
Mon mari est toujours Louis Boutin. Vous savez, quand je me suis engagée en politique, il y a très longtemps, c'était en 1977. Certains d'ici ne sont pas nés. En 1977, j'étais donc une jeune femme. Et bien sûr, j'ai demandé à mon mari s'il acceptait que je le fasse. Enfin, c'est une décision qu'on doit prendre en couple.
Ah oui.
Le oui auquel je faisais allusion tout à l'heure. Eh bien, il m'a dit, et à chaque fois, quand je suis montée en grade, si je peux m'exprimer ainsi, il m'a dit, d'accord, la seule condition, c'est que je ne sois pas le prince consort. Et du reste, mon mari, on le voit très peu. Il y a quelques photos de lui, mais très, très peu.
C'est le prince qu'on sort pas, alors.
Voilà, c'est le prince qu'on sort pas. Il est ce qu'il est, et je tiens beaucoup à, et lui aussi, à être ce qu'il est.
Il y a le problème du patronyme en politique. Vous voyez, on a eu un moment d'incertitude, là, quand il s'est agi de déterminer la façon dont on vous accueillerait. D'habitude, c'est les trompettes d'Aïda que vous avez entendues, finalement. Et puis là, Péroni nous avait suggéré de vous accueillir aux accents de « Tiens, voilà la Boutin
oh. ».
Et on a résisté.
Dites-donc, vous buvez un coup en cachette. C'est pas possible, quand même. Regardez-moi ça, le vieil outil qui me fait porter un chapeau qui n'est pas le mien.
Oh. Mais votre mari, c'est Louis Boutin.
C'est Louis, oui.
Ah, mais je le connais, il fait des chaussures, Louis Boutin.
Non. Moi, je ne m'achète pas des chaussures chez Louis Boutin, c'est d'un grand talent, mais moi, je ne m'achète pas de chaussures chez Louis Boutin. Louis Boutin ne fait pas de chaussures. C'est un informaticien, et voilà.
Ah oui.
Approuvez-vous, Louis, votre mari, quand il chasse le sanglier qui n'est pas beau, certes, mais qui est quand même une créature du bon Dieu?
Ah ben moi, j'ai beaucoup de respect pour les chasseurs. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les chasseurs. Du reste, l'image est en train de s'améliorer, heureusement, vis-à-vis d'eux, parce que je pense que s'il y a des personnes en France qui connaissent vraiment la nature, ce sont les chasseurs. Parce qu'ils accompagnent la nature dans toute l'année. Et même s'ils sont adroits, ils ont beaucoup de ratés. Voilà, le gibier a tout à fait sa chance. Et j'ai beaucoup de respect pour les chasseurs. Et du reste, quand j'étais à l'Assemblée nationale, je faisais partie du groupe chasse.
Dire
bien que moi, je
tirer.
Ne chasse pas.
Oui, ils ne savent pas tirer.
Ils ne savent pas tirer, c'est ça?
C'est très difficile. Est-ce que vous êtes chasseur?
Mais il sait tirer.
Pêcheur aussi.
Vous êtes...
Mais je sors la gaule avant de tirer un coup. Hein.
Ça, c'est les pêcheurs. Hein. Mais
c'est les pêcheurs.
C'est les pêcheurs qui ont la gaule.
Oh, ils mélangent tout.
C'est ce que je te dis.
Ils mélangent la plume avec l'écaille. Alors, une question très personnelle, madame Boutin. D'où vient la cicatrice qui marque votre cuisse?
Allons bon.
Ah bah, c'est pas
mal. Mais vous avez des secrets?
Oh bah, j'en ai des secrets.
Mais vous connaissez la formée.
C'est les voisins qui nous l'ont dit. Un jour d'été.
Ah bah, c'était... Je vous ai dit, j'aime la vie et je suis très gourmande. C'est ce qui me vaut un peu de bonjour.
Oui.
J'avais 15 ans à l'époque, c'était en plein été effectivement. Je me suis fait du caramel dans une casserole.
Queue
de la casserole a tourné et c'est tombé sur mes cuisses. Et
ça, c'est quand même une histoire de queue. Oui.
Mais à l'époque, vous n'avez pas confondu caramel et carmel, non? C'était bien.
Non. Alors, quoi qu'à l'époque, je me posais la question.
Voilà.
C'est assez courant.
C'est freudien, ça. C'est
assez courant à 15 ans de se poser la question.
Les sœurs du caramel, oui.
Ça existe, les religieuses au caramel.
Bien sûr.
Pourquoi, alors que vous êtes fan de Johnny Hallyday, n'allez-vous pas à ses concerts?
Alors, vous savez, Johnny Hallyday, c'est, comme beaucoup de personnes de ma génération, c'est une icône, c'est un symbole pour moi. Quand j'avais justement 14-15 ans, c'était la révolte vis-à-vis de la famille, parce que c'était pas tellement bien porté à l'époque, souvenez-vous. Vous en souvenez peut-être pas, vous
êtes trop jeune. J'étais pas né, je suis né en 82.
Oui, c'est ça, vous êtes trop jeune. C'est bien ce qui me semblait. Mais à l'époque, dans les concerts de Johnny, on cassait les fauteuils. Enfin, c'était un peu une révolte vis-à-vis de la famille. Et puis, en fait, je suis restée fidèle à Johnny. Mais alors, je ne suis pas allée à ses concerts parce qu'il est devenu tellement une statue pour moi que je ne veux pas être déçue en allant l'écouter. Donc, voilà.
C'est encore bien. Voilà. Ouais. Oh, il est encore bien, je crois.
Oui, sans doute. Mais voilà, j'ai pas voulu.
Et regarde un peu Christine Boutin. Elle est terrible.
J'aimerais bien qu'il me dise ça. Hein.
Mais vous lui avez déjà parlé ?
Non, je ne l'ai... Non, je n'ai pas.
Je vous dis ça parce qu'un chien regarde bien un évêque, alors bon.
Philippe.
Nous avons beaucoup de choses à vous demander encore, et notamment avant qu'on en vienne à la dernière case de la roue, est-ce que vous avez une histoire drôle à nous raconter ?
Histoire drôle à vous raconter ? Bah écoutez, J'ai eu le prix de l'humour politique.
C'est bien.
Ça vous surprend, non ?
Mais non, volontaire ou involontaire ?
Oui, involontaire. Involontaire. C'était justement dans les années 92, sur la bioéthique, où il était question du don de sperme. Ah. Et la grande question était de savoir si on devait rendre ce don de sperme anonyme ou pas. C'est du reste encore un sujet
d'aujourd'hui. Toujours à l'actualité.
Moi, j'étais contre l'anonymat du don de sperme. Et nous étions au Sénat, dans un colloque très docte, très sérieux. Et j'ai demandé la parole. Et pour défendre ma thèse, je leur ai dit « Écoutez, ça serait quand même inadmissible que les hommes donnent leur sperme et s'en lavent les mains après. » Alors, naturellement, je ne me suis pas rendu compte. Le lendemain, dans Le Monde, on reprend mon propos. Je dis « Mais jamais, j'ai dit une chose pareille. C'est pas possible. » Et j'ai écouté les bandes qui avaient été enregistrées. Et c'est j'avais bien dit cette phrase. Et ça m'a valu le prix de l'humour politique. C'est un espèce de petite statue. Comment il s'appelle de... Oh, ben, je me souviens
plus. Oui, le Gérard. Non, pas le Gérard.
Non. C'est dans la BD Obélix et Astérix.
Astérix.
C'est le petit. Le petit
Astérix.
C'est le petit Astérix. Oui,
avec la potion magique.
Avec la potion magique.
Alors, à tour de roue, monsieur Péroni.
Eh bien, alors, on roule. Et puis, on va tomber là. C'est ça que vous vouliez, les tops et les flops.
Les tops et les flops. Voilà. Alors bon, le top, c'est ce qui vous a le mieux réussi. Le flop, c'est le contraire. Le top, qu'est-ce que ça a été ?
C'est pas facile à trouver dans une durée aussi longue, mais je crois que ce qui me donne le plus de joie intérieure dans ma responsabilité, c'est d'avoir créé les premiers Restos du Cœur dans mon canton, en zone rurale, en Île-de-France. Et à l'époque, les 18 maires de mon canton, à qui je demandais la création de ces Restos du Cœur, n'en voulaient pas. Et je me suis battue, mais vraiment battue comme une diablesse, pour faire en sorte qu'il y ait ces Restos du Cœur à Rambouillet, dans le canton de Rambouillet. Et ils vivent toujours. On va fêter les 20 ans l'année prochaine. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me fait très plaisir.
Vous y allez de temps en temps ?
Oui, j'y vais de temps en temps. Pas très souvent, mais j'y vais maintenant. Ça marche tout seul. Ouais. Et vous savez-vous que cette année, sur Rambouillet, qui n'est quand même pas une zone la
c'est
plus...
Chic, oui.
La,
oui,
c'est, pas une, ouais. C'est pas une raison chic, mais c'est pas une zone difficile et très pauvre. Eh bien, les Restos du Cœur ont augmenté de 20% sur l'année dernière. Ouais. Donc, on voit bien quelle est la gravité de la situation. Aujourd'hui, on a autre chose que de s'occuper du mariage gay, honnêtement. Il faut arriver à donner à manger à tous nos concitoyens. Je pense que c'est la première des priorités. Et ça, c'est mon top. Oui, c'est mon top d'avoir...
Et le flop ?
Eh bien, je vous dirais que, en apparence, c'est sans doute toute ma carrière politique.
Comment ça ?
Oh là !
Parce que, oui, parce que, pourtant, j'ai tout eu. J'ai été maire, conseiller général, député, ministre. Donc, par rapport à l'apparence, c'est une carrière politique magnifique. Elle est magnifique, mais par rapport à mes convictions, j'ai perdu tous mes combats. Et donc, c'est un vrai flop. Mais,
chaque fois que vous avez défendu une idée, elle n'a pas été adoptée.
Elle a souvent été combattue, et en tous les cas, pour les plus importantes, je n'ai pas gagné. C'est pas grave, parce que je pense que ce combat-là devait être mené et que de toute façon, il rejaillira dans un temps plus ou moins court. Parce que le réel, la vérité, elle s'impose toujours. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui tiennent des propos, à temps et à contre-temps. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que quand je regarde la famille, franchement, ce qu'elle donne aujourd'hui, la famille, elle est contestée, elle est explosée, elle est en difficulté. Quand je regarde les problèmes bioéthiques, l'interdiction de la recherche sur l'embryon, on va le légiférer prochainement. Quand on regarde le mariage homosexuel, tout ça, tous mes combats...
Enfin, quand même, je viens de voir ce matin qu'on avait mis au point un utérus artificiel.
Ah bah bien sûr.
Ça vous réjouit ?
Non, pas du tout. Ça ne me réjouit absolument pas. On va vers la chosification de l'homme, la fabrication de l'homme, suivant des intérêts qui seront définis par les puissants. Et je pense que toute l'humanité de l'homme est en train de disparaître. C'est la raison pour laquelle le Parti chrétien-démocrate, nous avons comme volonté de remettre l'humanité au cœur de notre vie. Parce que petit à petit, nous devenons des objets de fabrication et des choses. Et ça, ce n'est pas possible. Si nous continuons vers là, et du reste, on commence à le voir...
Mais attendez, votre doigt menaçant envers
non,
nous,
non, non, non.
On n'y est pour rien. Hein.
Mais non, mais nous irons...
On va pas mettre le doigt
dans l'utérus, je vous le dis.
Hein. Oh, mais non, mais non.
Moins il y aura d'humanité, plus il y aura de violence.
À propos d'utérus, je
préfère
lutter
que nous nous réveillons.
Si vous souhaitez qu'il n'y ait plus d'humanité, il faut la vendre le dimanche. Hein.
En bien, Philippe.
Contrairement à ce que l'on peut penser,
non, mais...
il m'est arrivé très souvent de voter comme les communistes
mais
à l'Assemblée nationale.
Parce que
les communistes ont aussi une préoccupation de l'homme que d'autres libéraux n'ont pas.
Alors, monsieur Péroni, vous allez pouvoir fermer la baraque.
Eh bien, on ferme la baraque.
Voilà.
Et je ne vote pas la caisse.
Merci.
Ah, la honte de l'invité d'honneur. Petite contrition.
Ce qui a été le plus difficile, le plus douloureux pour moi, ça a été la représentation, ma représentation sur Canal Plus au Guignol, sous les traits d'une truie.
Oh.
Voilà. Donc, oui, effectivement. Et donc, voilà. Mais ça a été surtout. Vous savez, ce qu'on n'imagine pas, à la limite, une femme politique, un homme politique, nous prenons les risques. Mais c'est pour mes enfants. Je me souviens de la tête de mes enfants quand ils m'ont vue à la télévision représentée sous les traits d'une truie. Franchement, pour eux, ça a été très douloureux. Je ne dis
pourquoi
pas non plus pour
pas les animaux.
Bah, écoutez, ils aiment leur mère et pour l'instant, ils m'ont pas représenté comme une cochonne.
Non, mais c'est vrai que quand on apparaît au Guignol, c'est pas généralement sous son meilleur jour, hein.
Oui. Oh, oui. Est-ce que vos enfants partagent gentil, vos opinions?
Écoutez, ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas membres de mon parti. Je pense que sur les fondamentaux, oui, mais ils ne sont pas du tout engagés politiquement.
Ils sont croyants, ils...
J'en ai trois, c'est variable. Voilà, oui, oui, non, non, c'est pas du tout...
Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ?
Il y en a un qui s'occupe de la forêt, il y en a... ma fille est informaticienne, et le dernier est notaire.
Donc elle passe à l'acte comme vous.
Il y a bout 1, bout 2, bout 3.
Voilà, voilà, exactement.
Et informaticienne comme papa.
Absolument. Voilà. Mais voyez, il n'y en a pas un qui fait de la politique. Hein.
Ah,
j'ai pas transmis.
Ils se sont méfiés. Hein.
Ils ont vu ce que c'était, surtout, je crois.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous décernions notre CAP, notre certificat d'aptitude à la plaisanterie à Christine Boutin ?
Oui.
À l'unanimité, je vous remets ce diplôme. Et puis, bah, nous garderons un bon souvenir et j'espère que le vôtre sera à l'égal du nôtre pour cette visite.
Merci.
Imprévisible, mais qui a eu lieu, improbable, mais nous sommes très heureux de l'avoir suscité. Bravo, à demain.
Merci.